Maintenant.
Sur Radio Libertaire 89.4 et DAB+ en région parisienne. Yves au micro, Laurent à la technique. Nous vous rappelons toujours le numéro du studio 01 43 71 89 40. Nous vous rappelons également que l'émission est réécoutable pendant 12 mois à partir de la fin de sa diffusion et elle ne s'autodétruira pas tout de suite. Nous avons besoin de votre soutien actif à la mesure de vos possibilités. Vous téléchargez le bon de souscription sur le site de la radio, radiolibertaire.org, sur lequel vous avez l'ensemble des du programme, des émissions, en détail, les horaires, la grille, tout ça. Vous pouvez télécharger l'émission, les réécouter. Voilà, il n'y a pas de problème. Juste une précision concernant JazzLib. L'émission est coupée en deux. Vous avez première partie, deuxième partie. Donc pour avoir l'intégralité, vous téléchargez ou vous réécoutez les deux en sachant que le podcast empiète un tout petit peu, 5 minutes avant, 1 minute après, etc., etc. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr si vous avez besoin de renseignements particuliers. Vous pouvez regarder ma page Facebook sur laquelle je mets l'ensemble des informations liées à l'émission. Et puis, de temps en temps, mon chat qui me fait des petites incursions rigolotes. Voilà, donc ce soir, bien que je ne l'ai pas indiqué dans le programme, dans l'agenda, ni sur ma page Facebook, nous allons rendre hommage à un musicien, un guitariste qui nous a quitté beaucoup trop tôt, qui s'appelle Russell Malone, enfin qui s'appelait, qui était né en 1963 et qui est décédé tout à fait récemment, là, le 23 août dernier, à l'âge de 60 ans, ce qui est vraiment extrêmement dommageable pour lui et pour la musique, voilà. Alors, musicien peu connu du grand public, alors, il va falloir peut-être que j'arrête de dire grand public, parce que de toute façon, le jazz ne s'adresse visiblement pas au grand public. Mais encore, Russell Malone n'était quand même pas le plus connu des aficionados de jazz. Mais quand même, c'est un musicien... qui a eu des collaborations plus que prestigieuses, vous allez voir. Mais bon, revenons un tout petit peu, il était né un 8 novembre 63, scorpion comme moi, et il a commencé la guitare à l'âge de 4 ans parce que sa mère lui a offert une petite guitare jouet, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui commencent comme ça. En se prenant pour Jimi Hendrix tout de suite, mais bon, après il faut un peu travailler. Et il a été influencé par B.B. King d'abord, et puis ensuite il a été un peu scotché à l'âge de 12 ans en voyant une émission de télé avec George Benson qui accompagnait Benny Goodman ou les deux, enfin je sais plus. Et donc là, il s'est mis à bosser et c'est un autodidacte. Alors, il a commencé en 1988. Et tout de suite, ça commence bien parce qu'il est embauché par l'organiste Jimmy Smith, évidemment, quand même. Ensuite, il passe 3 ans avec Harry Connick Jr. Et en 95, et il va, en 95, il va être embauché par Diana Krall, la chanteuse et pianiste. Et qui va participer à des albums qui vont être nommés aux Grammy, comme When I Look in Your Eyes, qui était le Best Vocal Jazz Performance. Il va travailler également et enregistrer avec le pianiste Benny Green, et il va ensuite jouer avec tout le gratin du jazz de notre époque, mais bon, je cite quand même quelques-uns, Ron Carter, Roy Hargrove, Kenny Barron, Branford Marsalis, Wynton Marsalis, Jack McDuff, l'organiste qui avait embauché Pat Martino, Mulgrew Miller, le regretté pianiste, Eddie Clinette Vinson à l'alto, Diane Reeves, la chanteuse. Donc vous voyez, ça commence déjà à faire du beau linge. Ensuite, il va faire quelques apparitions avec le vibraphoniste Bobby Hutcherson, avec Dr. Lonnie Smith, avec Hank Jones, avec Bill Frisell, avec Sonny Rollins. Voilà, donc c'est un peu dommage parce qu'on ne le connaît pas beaucoup. Par contre, il a une discographie très, très impressionnante. Malgré tout, je pense qu'il a plus d'une cinquantaine d'albums. Il a enregistré pour lui à peu près 15-20 albums sous son nom, et puis alors après en invité il a été avec le contrebassiste Ray Brown, avec Harry Connick, donc je l'ai dit, avec Benny Green, nous l'avons aussi mentionné, avec Diana Krall sur beaucoup d'albums, avec Houston Person, avec David Sanborn, il l'a suivi dans le paradis des musiciens, avec Gary Bartz également, avec Stefano Di Battista, avec David Benoit, avec Gary Burton, avec la violoniste Regina Carter, avec Natalie Cole, la fille de Nat. Il a participé au Golden Striker de Ron Carter, avec John Faddis, encore un trompettiste bien oublié. Alors bon, après, il y a toute une série de musiciens, dont notamment Dave Grusin, qui est aussi connu pour faire beaucoup de musique de film, avec Vincent Herring, le saxophoniste, il a enregistré avec B.B. King, avec Gladys Knight, qui est une chanteuse des années 60-70, mais qui a continué, avec Chris McBride, avec les New York Voices. Je vous en avais parlé des New York Voices, qui était un album consacré aux chansons de Paul Simon, avec Sonny Rollins, avec Janis Siegel, qui a été chanteuse de ce groupe Manhattan Transfer, très très bon groupe. Et puis voilà, c'est bien triste. Alors nous allons quand même lui rendre hommage avec deux thèmes que j'ai repérés sur la toile. Un premier qui date de un enregistrement de 2009 avec un thème archi connu un concert filmé et enregistré avec Nat King au piano, Christian Diener à la contrebasse, alors c'est peut-être Christian Diener à la basse, et Wolfgang Hafner à la batterie. Je ne sais pas où ce s'est passé, mais visiblement, peut-être bien en terre germaine. C'est parti, Laurent. Asile Radio Libertaire 89.4, il me semble me rappeler que c'était à Marciac, ce concert. Alors, encore un tout petit mot sur Russell Malone, Russell Lamar Malone, de son vrai nom. Donc il est mort le 23 août dernier, il est mort quasiment sur scène, hein, puisqu'il était au Yoshi, le club de jazz de Tokyo, où il est mort d'une crise cardiaque quasiment sur scène. Il était en trio, en tournée avec Ron Carter, et Donald Vega. Et voilà, c'est bien triste. Alors, nous allons l'écouter dans un concert plus récent. Alors, c'est un concert que je vous recommande, cette chaîne. Il s'agit d'Emmett Cohen. Quand j'avais fait la nécro sur le batteur qui est mort récemment, ça va me revenir, qui était un musicien extraordinaire. Le dernier de la fratrie des frères If, voilà, donc Percy If. Et il jouait avec un pianiste tout jeune, une trentaine d'années, qui s'appelle Emmett Cohen. Et Emmett Cohen a une petite chaîne YouTube, enfin comme beaucoup, comme Chad, Brown, Lefovitz, etc., ou Étienne Guéraud, que nous avons reçu évidemment ici. Et Emmett Cohen joue dans un tout petit endroit, vraiment teeny room, comme on dit, et avec quelques spectateurs, donc c'est quand même en public. Et donc là, c'est une session. Donc il invite Emmett Cohen, invite beaucoup de musiciens, et il a sa section rythmique avec lui, avec Russell Hall à la contrebasse et Evan Sherman à la batterie. Et donc là, pour l'occasion, il avait invité Russell Malone pour, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de vous choisir le morceau qui s'appelle Road Song, qui est un thème évidemment de Wes Montgomery. Aucun guitariste de jazz moderne ne peut faire l'économie de passer par Wes Montgomery. Donc voilà, c'est un chouette concert, et la plupart des concerts avec Emmett Cohen dans son petit studio en public, là, c'est vraiment absolument génial. En plus, c'est pas trop mal filmé, pour une fois. Le son est bon, donc allez-y, profitez-en, c'est sur YouTube, vous pouvez y aller. Voilà, donc, et bien, selon l'artiste, c'était vraiment dommage, 60 ans, ça faisait un petit peu court, je trouve. C'est parti, Laurent. Thank you. Terre 89.4. Et bien voilà, le destin nous prive d'un guitariste pour le moins bien doué et bien bien loti. Et puis surtout, c'était quelqu'un que tout à fait charmant, qui de l'avis de tous ceux qui l'ont côtoyé ont toujours dit que c'était vraiment un type sympa, assez discret, je vais pas dire humble parce que ça m'énerve un peu, toujours le sourire aux lèvres et avec un beau mot et de l'humour. Voilà, donc c'est vraiment plus que dommage, voire même carrément dommageable. Alors nous allons maintenant passer aux nouveautés. Et nous continuons avec un guitariste. Alors il s'agit du guitariste Félix Lemerle. Et alors ce nom vous dit peut-être quelque chose. Et oui, c'est le fils de Dominique Lemerle, le contrebassiste que nous avons reçu à plusieurs reprises dans les studios. Et donc l'album est... on est un petit peu en retard puisqu'il est sorti le 17 novembre 2023. Donc voilà, mais on a eu quelques problèmes de compréhension avec l'attaché de presse. Rien de grave, rassurez-vous, nous allons en écouter un extrait. Donc, il y a... alors, pardon, pouf pouf, on recommence. Le titre de l'album s'appelle Blues for the End of Time, c'est-à-dire le blues pour la fin des temps. Hein, bah, c'est assez réjouissant, mais que bon, voilà, c'est un peu l'époque qui veut ça. Et donc, il y a Félix Lemerle aux compositions et à la guitare, évidemment, Bertha Hope au piano, une vieille dame tout à fait bonne pianiste, Samuel Lerner également au piano dans d'autres morceaux, Harry Roland à la contrebasse et le batteur Jimmy Cobb. Et évidemment, Jimmy Cobb, ce nom, je pense que vous le connaissez, hein, c'est un musicien qui a joué notamment dans ce fameux disque que peut-être personne ne connaît, qui s'appelle Kind of Blue en 1959, avec un certain Miles Davis. Il y avait John Coltrane aussi, Bill Evans, enfin Cannonball, et Paul Chambers. Voilà. Donc, Jimmy Cobb joue dans ce groupe. Et nous allons écouter un thème qui s'appelle Rise and Shine. Si ça veut bien partir. Thank you. Radio Libertaire. Donc, il s'agit de Félix Lemerle à la guitare, Blues for the End of Time. Et je trouve, alors je sais toujours, comparaison n'est pas raison, mais je vous redonne des pistes à explorer. Je trouve qu'il y a un petit côté Tal Farlow chez ce guitariste, voire même par certains moments, alors pour ceux qui s'en souviennent, Elek Baksik, qui était par ailleurs également violoniste. Donc c'est plutôt un compliment, je dirais, voilà. Alors, on continue les nouveautés, alors avec un album qui est sorti il y a 6 jours, du saxophoniste français, mais qui vit à New York, Jérôme Sabag, qui s'appelle Heart, c'est-à-dire le cœur. Il en faut. Alors, il est accompagné par Joe Martin à la contrebasse et encore un batteur prestigieux qui, lui aussi, a joué avec à peu près tout le monde, et notamment, évidemment, Miles Davis, Al Foster à la batterie. Alors, c'est un... Plusieurs remarques. La première, c'est que ça a été enregistré il y a longtemps, en 2022, et donc ça a mis du temps à arriver ici. Peut-être que le voyage de l'Atlantique a été agité. Mais ce qui est important, c'est que ce disque, c'est la mention hein, qui est importante, ça a été enregistré en direct, en studio, et n'a fait l'objet d'aucun montage. Voilà. Donc c'est important de le souligner. Alors, ils reprennent, nos amis, beaucoup de standards, dont notamment de Duke Ellington, d'un petit peu tout le monde. Et je vous ai choisi un qui s'appelle ESP, évidemment, de Wayne Shorter. Alors, ESP, pour ceux qui voudrait savoir ce que ça veut dire, puisque c'est un titre de Wayne Shorter, mais qu'on retrouve dans le quintet de Miles, juste avant que Miles ne s'électrifie, j'allais dire ne s'électrocute, bref, ne s'électrifie. ESP, ça veut dire extrasensorielle perception, je crois. Hein. Donc, c'est, voilà, on est dans les choses un petit peu en dehors des sentiers battus. Voilà, c'est parti, Laurent. Thank you. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, c'est Jazz Libre 89.4 et DAB+ en région parisienne. Donc l'album est sorti le 30 août dernier qui s'appelle Heart, qui est, je vous l'ai dit, donc voilà, de Jérôme Sabague au ténor, au saxophone, et Joe Martin à la contrebasse et Al Foster à la batterie. Donc c'est un album très épuré. Le trio comme ça, de sans piano ou sans guitare, est toujours un petit peu compliqué, enfin compliqué, pas compliqué, mais plus aride, plus introspectif et un exercice éminemment difficile. Bon, c'est pas non plus la guerre, hein, donc comme disait Henri Texier dans les... pour un artiste se mettre en danger, c'est un petit peu relatif. Mais disons que c'est un peu compliqué. Et puis évidemment, lorsque Sonny Rollins enregistre en trio avec, ça va me revenir. Donc le fameux disque qui a marqué beaucoup de générations de musiciens, dont Henri Texier, mais pas que. Eh bien, je vais le retrouver, ne vous inquiétez pas. Passer après sur ce type de formation, c'est un peu compliqué. Il y en a eu d'autres qui l'ont fait également. Alors, nous continuons alors avec un groupe français qui s'appelle le RP Quartet. Et c'est pas leur premier opus, ils en ont eu plusieurs. Mais alors là, par contre, le titre est vraiment tout à fait savoureux. Ça s'appelle « The Birth of the Co ». Et donc, évidemment, c'est un jeu de mots assez pourri qui est en rappel du fameux album de Miles Davis de 1949, The Birth of the Cool, que vous aurez évidemment, pour les spécialistes et ceux qui suivent mon émission depuis longtemps, vous aurez reconnu le truc. Et donc, l'album va sortir, donc c'est pas la peine de vous précipiter encore dans les bacs. L'album va sortir le 11 octobre, et il y aura le 12 novembre au Sunset le concert, et dans le 77, donc en Seine-et-Marne, le vendredi 22 novembre au Jazz au Théâtre. Voilà, alors, c'est un album avec... des musiciens que je ne connais pas, mais qui ont une manière de réinterpréter les choses tout à fait étonnante. Alors il y a Bastien Ribaud au violon, Edouard Penn ou Penness, je ne sais pas, à la guitare solo, Rémi Holzval à la guitare rythmique et Damien Varaillon à la contrebasse, oui, que lui on connaît un petit peu plus. Ce serait un peu réducteur de les mettre dans le côté jazz manouche, parce que c'est pas tout à fait ça. D'autant qu'ils reprennent évidemment beaucoup de compositions de Duke Ellington. Nous allons réécouter leur version de Caravan. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, choisir c'est renoncer. J'aime ce thème de Caravan, parce que je le joue aussi, donc là voilà. Et puis ils reprennent des thèmes de Monk, ce qui évidemment pas du tout dans la démarche habituelle, évidemment de Django, mais de Cannonball Adderley, de Wayne Shorter également, donc que nous allons écouter tout de suite. Donc on va écouter les deux titres, peut-être enchaînés, comme ça, ça nous fera gagner du temps et ne pas faire trop de blabla. Donc le premier s'appelle Caravan, hein, que nous allons écouter, et puis ensuite un autre thème de Wayne Shorter qui s'appelle Juju, qui était tiré du même album éponyme de Wayne à l'époque. Juju, je crois que c'est un album qui date de 1965. Voilà, et ben c'est parti. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4 et DAB+. Alors voilà, c'est intéressant parce que c'est une réappropriation tout à fait étonnante d'un groupe qui est, entre guillemets, plutôt catalogué jazz manouche. Mais bon, voilà, comme je suis assez difficile sur le dossier, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus qu'intéressant parce qu'ils font vraiment ressortir les choses très très différemment. Il y a même, par moments, quelque chose qui rappelle un peu Ravel, Debussy dans cette manière de jouer. Et puis, évidemment, en évitant de ressembler à Grappelli, Django, quoi, voilà. Bon, donc, je trouve que c'est un disque intéressant et la totalité de l'album est de cette qualité. Donc, voilà, ça va sortir le 11 octobre. Je vous rappelle, ça s'appelle The Birth of the Co. Très, très bon jeu de mots. J'ai adoré. Alors maintenant, ça faisait très longtemps que je voulais attaquer ce morceau, parce que c'est un gros morceau, évidemment, nous n'aurons pas le temps, comme d'habitude, de tout passer. Et je veux parler du saxophoniste norvégien Jan Garbarek. Alors, pourquoi ? Parce que je l'avais un peu oublié, non, enfin, c'est pas que je l'avais oublié, mais comme toujours, on a des priorités, et puis les musiciens meurent, et c'est vraiment bête, et puis d'autres viennent dans les studios nous parler de leurs trucs, et ça, c'est vraiment bien. Donc, j'ai pas eu le temps. Donc, je tente de rattraper, c'est toujours la course contre l'horloge. Et donc, Jan Garbarek est né, puisqu'il est toujours vivant, hein, il vient de sortir un disque que je ne vous recommande pas, je suis désolé, mais là, celui-là, son dernier disque ne me plaît pas. Il est né un 4 mars 1947 et son père était un ancien prisonnier de guerre polonais et sa mère une norvégienne. Et donc en fait jusqu'à l'âge de 7 ans il a grandi à Oslo et il était sans nationalité puisque à cette époque-là ça a été complètement... enfin c'était compliqué donc et puis à l'âge de 7 ans... on lui a donné la nationalité. Voilà, donc il s'est marié le 21... Ah, quand il avait 21 ans, pardon, excusez-moi, avec une auteure, Vigdis Garbarek, donc voilà. Et il est également le père d'une compositrice, Anja Garbarek. Alors, évidemment, je vous ai choisi dans sa pléthorique discographie, parce que là, il y en a vraiment plein, mais vraiment plein, hein, c'est beaucoup. Je vous ai choisi essentiellement, mais pas que, mais essentiellement la période du quartet européen de Kev Jarrett. Alors, pourquoi ci, pourquoi ça ? Alors, d'abord, le quartet européen de Kev Jarrett, il était plus ou moins destiné pour Kev Jarrett de se reposer de ses tournées américaines. Et donc, il venait, en somme, non pas s'amuser, parce que vous allez écouter la musique, ça n'a pas perdu du tout. Et c'était vraiment une musique assez incroyable, je trouve, et qui n'a pas du tout perdu, qui n'a pas la moindre ride. Mais il commence, Jan Garbarek, alors il joue du ténor essentiellement, du soprano, alors il joue comme Eric Barret, du soprano recourbé. Je crois même que Wen a dû en jouer, il me semble, dans le temps jadis. Et il commence en 1967, donc à jouer, et il va jouer avec énormément de musiciens locaux, hein, évidemment. Mais également il va jouer avec des musiciens un petit peu qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans le jazz comme Trilog Gurtu, enfin évidemment Trilog Gurtu, on sait sa participation avec John McLaughlin, évidemment Zakir Hussain également, voilà, enfin c'est pour donner un petit peu le cadre, on va dire, qu'il a été comment dire, fait chevalier première classe de l'ordre de Saint-Olaf, voilà, il est membre, il a gagné ici un prix comme norvégien des arts, enfin voilà, l'équivalent de chevalier des arts, et puis un prix en 2014, le prix Willy Brandt, voilà. Donc, il a joué en sideman avec énormément de musiciens, pour citer les principaux, il y a Charlie Haden, évidemment, Egberto Gismonti, Kev Jarrett, donc nous allons l'écouter. Évidemment, Everbar et Bérard Weber à la contrebasse, Miroslav Vitus, nous avons le temps, Ralph Toner, alors là je vous ai préparé un truc incroyable, George Russell, évidemment, Gary Peacock, et le guitariste Terje Rybdal, alors je ne sais pas si je le prononce, je n'ai pas l'accent norvégien, ni même scandinave d'une manière générale, et avec la chanteuse également Karin Krog. Alors, nous allons commencer par le disque que je vous ai choisi, qui s'appelle Belonging, qui date de 1974, avec un premier thème qui s'appelle Spiral Dance, donc avec Kev Jarrett au piano. On va l'écouter et je vous dirai qui jouait, parce que c'est en même temps un hommage au contrebassiste qui vient de mourir il n'y a pas très très longtemps, dont je voulais faire également un hommage, donc ça tombe bien, j'ai un peu combiné les deux. Voilà, donc c'est le quartet européen Belonging 1974, Spiral Dance, et je vais vous en dire plus tout à l'heure. C'est parti, Laurent.